Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons pour un nouvel entretien autour de la semaine du cerveau qui se tient à Montpellier, une semaine assez extraordinaire, comme je le dis à chaque fois, une semaine de 23 jours, rien que ça. Bien, alors aujourd'hui, je pourrais dire comme un journaliste TV à une époque, n'ayez pas peur, car nous allons parler de peur avec Emmanuel Sarzi-Campillo. Bonjour Emmanuel Sarzi-Campillo.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférence à l'université de Montpellier. Vous travaillez aussi sur l'Institut des neurosciences de Montpellier.
Oui.
Et donc, ce sera le mercredi 18 mars, sera à 19h à la MSH sur le site de Saint-Charles, qu'avec votre collègue Isabelle Chaudieu, vous parlerez des peurs avec une conférence intitulée « Comment éprouvons-nous nos peurs ?». Alors, peut-être déjà pour commencer, le mot peur, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de peur en ce moment, beaucoup de raisons d'avoir peur, qu'elle soit, certains politiques nous disent qu'elle soit dans la rue, ou quand on regarde les informations, quand on écoute un peu ce qui se passe dans le monde, il y a de quoi avoir peur, effectivement. Dans la langue de tous les jours, on parle de peur, on parle d'angoisse, on parle de panique, on parle d'anxiété, de crainte. Est-ce que tous ces termes-là... c'est la même chose pour vous ou est-ce que vous les abordez un peu différemment, sachant que vous n'êtes pas dans la philosophie de la peur, mais bien dans les neurosciences?
Oui, tout à fait. Donc, je vais parler plus sur le versant donc neurobiologique. On peut considérer la peur avant tout comme une émotion primaire, hein. C'est une émotion fondamentale. Donc, si on considère cette émotion, c'est quelque chose qui va s'installer sur un moment très précis, qui va être assez court, intense. Quand on va parler d'anxiété, d'angoisse, là on va parler sur des choses qui vont s'installer un petit peu plus dans le temps et qui vont faire référence peut-être à du passif déjà sur des expériences de peur qui a eu lieu auparavant et qui auront déclenché des situations d'angoisse et de sentiments de peur, mais qui vont s'étaler dans le temps et qui vont peut-être aller vers le terrain de la pathologie, on va dire.
D'accord. Alors, la peur, en même temps, c'est une composante, je dirais, incontournable de l'humanité. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que les animaux éprouvent la peur de la même façon que les humains? Je ne sais pas si vous avez des éléments pour dire ça.
Si, si, tout à fait. Tous les animaux qui présentent un système limbique et qui ont toute cette neurobiologie éprouvent ce sentiment de peur, cette réaction neurobiologique, car c'est la plus fondamentale, c'est celle qui va assurer la survie des êtres vivants. Donc, au niveau du cerveau humain, ça date de 250 millions d'années derrière nous, donc il n'y a pas que nous qui éprouvons la peur, oui.
Oui, voilà. Donc justement, c'était sur ça que je voulais arriver, dire que c'est une peur qui est nécessaire, parce que c'est une peur qui a garanti la survie des individus et a priori de l'espèce. S'il n'y a pas d'individu, il n'y aura pas d'espèce non plus, depuis fort longtemps, et ça va durer encore un petit moment, a priori.
Oui, tant qu'on la garde pour cette... justement, qu'elle reste non dérégulée, qu'elle reste bien efficace, ça va nous prévenir des dangers et de pérenniser notre espèce.
Alors, quelle est votre approche spécifique? Parce que beaucoup de disciplines s'intéressent à la peur. Hein. On peut dire à commencer par la psychologie, mais on pourrait même dire la philosophie, la politique. Et beaucoup de disciplines s'intéressent à la peur, pas toutes scientifiques. Hein, ou alors des sciences molles, comme on dit. Ce ne sont pas des sciences dures, ce sont des sciences molles. Mais comment les neurosciences, vos approches, quelle est l'approche spécifique de cette question de la peur?
Les neurosciences, alors, étudier les mécanismes fondamentaux de la peur, donc ce ne sont pas à la base mes spécialités. Moi, je travaille dans les neurosciences, dans les maladies rares neurodégénératives. Mais cette notion d'hérédité, c'est ce qui m'a amené sur ce terrain de la compréhension, plutôt de la transmission de la peur. Et aussi parce que ça faisait écho à mes enseignements, notamment sur la filière psychologie de l'université Paul Valéry. Si on peut... On ce qui est intéressant, c'est de la décortiquer d'un point de vue neurobiologique. Donc, dans nos enseignements, on part de, effectivement, de la neuroanatomie. On arrive à exposer aux étudiants comment fonctionne ce cerveau d'un point de vue général, quelle région va contrôler une fonction. Mais en fait, ce qu'on leur apprend surtout, c'est que tout le cerveau est là et travaille et se coordonne autour de fonctions particulières. Et pour les émotions, c'est fantastique. Ça met en jeu donc ce système limbique et ça met en jeu aussi toutes les la sphère corticale. Donc la peur, c'est quelque chose de passionnant, comme toutes les émotions, mais la peur, parce que c'est une émotion vive, ça met en jeu énormément de fonctions cérébrales. Les parties de la mémoire, la partie de régulation au niveau du cortex, j'en ai parlé, et le système limbique qui fait travailler tout un tas de structures profondes du cerveau qui vont enclencher cette réaction physiologique qu'on connaît, qu'on ressent quand on a peur, quand on a une émotion, on a parfois mal au ventre, on a le cœur qui palpite, on a chaud, voilà, tout ça c'est en fait une réaction biologique naturelle, mais qui implique énormément de fonctions cérébrales et au niveau de l'organisme qui est passionnant en fait.
Alors ce que vous me disiez là, quand on préparait un peu cet entretien, là, ce qu'on entend, bon, bien sûr la peur s'inscrit dans le corps aussi, on la ressent par le corps, c'est autant un ressenti psychique qu'un ressenti corporel, hein, oui, ça se traduit corporellement en tout cas, mais bon, quand la cause de la peur est partie, c'est parti quoi, voilà. Et vous disiez, bah non, il y a une empreinte de la peur, il y a une modification génétique qui peut être temporaire, mais ça joue au niveau de la génétique et de la chimie des cellules. Alors, quels sont les... Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ça, voilà.
Oui, alors, voilà, il va y avoir des empreintes en fonction aussi de l'importance, de l'intensité du stimulus de départ. Quand on a peur pour un événement assez basique, voilà, vous voyez un serpent dans la nature, vous avez cette réaction immédiate et vive de peur. Voilà, vous avez la réaction physiologique qui se met en place, vous avez mémorisé tout un contexte qui va vous permettre de vous prévenir la prochaine fois et vous mettre en alerte. Si vous avez à nouveau une balade en forêt, ben vous saurez que vous allez être en hypervigilance. Donc tout ça, c'est pour assurer cette sécurité et cette survie. Par contre, quand le stimulus va devenir trop important, qui va être voilà, très aversif, là, le corps va, en même temps qu'il a mis en mémoire tout le contexte du stimulus aversif, va le marquer peut-être de manière non conventionnelle. C'est-à-dire que c'est là qu'on va rentrer sur le marquage, on va dire, pathologique des événements de peur. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que le souvenir prenne le schéma d'un souvenir classique qui va être aidant pour nous prévenir du danger ultérieur, là il va prendre des chemins détournés, et dans ce détournement de chemin il va y avoir des dérégulations qui vont se mettre en place et qui vont nous éloigner de cette capacité de régulation normale autour de l'événement traumatique. Et dans cet aspect de dérégulation, des travaux donc de ces 10 dernières années, on va dire, ont pu mettre en évidence que ça se passait au niveau de nos gènes, non pas sur la séquence de notre ADN précisément, mais des modifications chimiques qui s'apposent sur nos ADN, qu'on appelle des modifications épigénétiques, et qui vont venir moduler, déréguler en fait l'expression de nos gènes. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que suite à de forts stress, de forts éléments traumatiques, il y avait des dérégulations de certains gènes qui avaient pour point commun de réguler l'axe corticotrope. Donc l'axe corticotrope, c'est ce qui nous permet de produire le cortisol, qui est l'hormone du stress, et voilà, on retrouve de manière commune des gens qui ont subi un stress et qui tombent dans cette symptomatologie qu'on appelle le stress post-traumatique, qui ont des dérégulations de l'axe corticotrope marqué. Donc ça va se traduire avec une hypervigilance, une hyperréactivité émotionnelle face à des situations de stress minimes, mais qui vont développer une hyperréactivité.
Bien. Alors, cette histoire de stress post-traumatique, vous disiez, ça a des incidences sur la composition chimique, ce qu'il y a dans les cellules, ça touche à des aspects secondaires, entre guillemets, de l'ADN, hein, des aspects périphériques, on pourrait dire, vous me dites si je traduis mal. Donc on est un peu au-delà de ce qu'on, quand on disait, bah, on a une peur, une montée d'adrénaline, et puis bon, l'adrénaline redescend, et ça y est, c'est réglé. Non, là, ça dure beaucoup plus longtemps.
C'est ça.
Alors, ça touche à la dimension génétique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a c'est transmissible? Est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire qui peut s'inscrire du fait d'une peur radicale rencontrée par un parent?
Oui, c'est très intéressant cette notion de transmission. C'est ce qui intéresse pas mal de groupes de recherche. En fait, ce que l'on sait, c'est que, donc, d'après des travaux, notamment pour il va y avoir plusieurs manières pour lesquelles on est sûr qu'il y a une transmission. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte et qui subit un traumatisme, on a pu montrer que le fœtus se voyait. On a retrouvé donc des modifications épigénétiques au niveau de la période de gestation qui va impacter la maturation des circuits cérébraux, et cet impact va avoir des conséquences sur la vie future de l'enfant et de l'adulte. Oui, donc ça a été montré.
De la même façon qu'une mère qui est alcoolique, par exemple, le fœtus va être impacté par son addiction à l'alcool, par exemple.
Exactement.
C'est le même type de processus, un peu.
Voilà, cognitif, c'est-à-dire que cet état de stress qui va se matérialiser par un pic de cortisol, par tout cet état de stress, va avoir un impact sur la gestation. Donc il y a des publications récentes qui ont montré que il y avait eu un impact du Covid sur les enfants. Donc, il y a eu des modifications épigénétiques communes qui ont été montrées sur un panel d'enfants. Ça a été montré aussi suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il y a des études aussi sur les descendants d'Auschwitz. Bon, ça, c'est encore sur d'autres aspects de la transmission.
Il y a aussi avec la guerre du Vietnam, où il y a eu beaucoup de travail fait par les Américains sur ces questions-là.
Voilà, au tout début, ça a débuté de ces soldats. En fait, c'est par leur exploration et leur diagnostic que ce terme de stress post-traumatique a été défini. Et donc, le premier point pour lequel on est sûr qu'il y a cet impact au niveau de cette transmission materno-fœtale. Ensuite, un individu à l'âge adulte qui est soumis donc, à un stress post-traumatique, dans la mesure où, effectivement, ça peut modifier de l'épigénétique au niveau de ses gamètes, il peut y avoir aussi une imprégnation et transmission à la descendance. La question qui reste en suspens et pour laquelle il n'y a pas de réponse encore... où il y a beaucoup d'interrogations, c'est cette transmission transgénérationnelle où, par exemple, l'année dernière, il y a une grande revue qui a publié presque 400 participants, donc 400 personnes, qui étaient des descendants de détenus d'Auschwitz. Et ils ont montré que sur la troisième et la quatrième génération, ils ne sont pas des patients parce qu'ils ne souffrent pas de stress. Ils ne sont pas passés sur le seuil vraiment traumatique. Ce n'est pas des gens qui vont vous dire « oui, on a des grandes incapacités à nous positionner dans la société ». Non, ils se sont très bien remis des traumas précédents. Mais au niveau de leur expression moléculaire, de leur modification génétique et épigénétique, on a vu qu'ils avaient hérité des mêmes modifications que les personnes de deuxième génération, voire encore des premières. Des personnes rescapées d'Auschwitz pour lesquelles qui ont pu participer à l'étude.
Sans qu'on puisse en faire un symptôme ou une pathologie. Donc,
exactement.
C'est simplement un état de fait chimico-organique.
C'est ça. Alors on sait très bien que au fil des générations, l'épigénétique est complètement abolie au moment des phases primitives de l'embryogenèse. Donc on n'a pas de... il y a quelques écueils qui permettent de comprendre cette transmission, mais il y a quand même, là, chez certaines études, chez d'autres modèles animaux, on a des pistes pour expliquer peut-être vraiment une hérédité transgénérationnelle qui serait de l'ordre de cette transmission épigénétique qui serait vraiment présente de génération en génération et qui passerait au-delà de cet effacement
Alors, je me posais la question en vous entendant, s'il y a des recherches qui avancent sur ces questions-là, on voit toujours cette représentation, peut-être un peu dramatisés par les séries télévision ou que sais-je, mais sur des choses comme le stress post-traumatique. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'à terme, on peut travailler sur du soin qui ne passe pas que par du récit ou par du comportemental, mais aussi par une intervention, enfin sur un médicament tout simplement, j'ai envie de dire, qui ne soit pas juste un anxiolytique ou un antidépresseur ou que sais-je.
Oui, tout à fait. Ça, on est en fait maintenant sur des thématiques de recherche qui sont menées en fait main dans la main entre les sciences cognitives et la neurobiologie, puisqu'on peut maintenant suivre les effets directs d'une psychothérapie, de techniques notamment comme le MDR, donc ces techniques qui vont...
Voilà, MDR, c'est...
Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc c'est une technique justement pour reprogrammer et désensibiliser la personne à l'aide de mouvements d'œil latéraux induits. Donc on force la personne à suivre le mouvement du doigt ou d'une baguette afin de remettre à zéro la capacité d'intégration. Voilà. Et en fait, ce sont des techniques qui vont essayer de jouer sur cette plasticité cérébrale et de faire en sorte que le souvenir traumatique puisse être redirigé vers un souvenir non traumatique. Donc ça, c'est vraiment jouer sur de la technique vraiment de plasticité cérébrale qui s'apparente. Parfois, il y a certains chercheurs qui pensent que ça peut s'apparenter au rôle du sommeil paradoxal pendant qu'on dort. C'est celui qui va revivre nos émotions et qui va les stocker, les mémoriser. Donc c'est se replacer sur un contexte de mémorisation et de consolidation de l'événement, mais le faire reconsolider de manière non traumatique. Donc là, voilà, il y a des échos. On sait qu'il y a des choses comme ça qui sont traitables. L'épigénétique aussi, ce sont des modifications chimiques qui sont réversibles. Donc on n'a pas encore de suivi pour dire que dans telle ou telle situation de thérapeutique, on peut modifier sur le long terme l'épigénétique. On sait qu'on peut le faire de manière médicamenteuse. On sait, ça se fait dans le cancer. Tout ça, c'est en train d'être travaillé. Et je pense qu'il y a des travaux qui ont certainement dû être...
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a souvent, en matière de santé mentale, je veux dire de façon beaucoup plus large, les conflits entre ceux qui sont pour le tout par la parole, par le récit, et puis d'autres qui sont pour le tout médical, par la pharmacopée, et ainsi de suite. Et certains disent, on peut avoir l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, vous allez encore un petit peu plus loin, vous dites que ce n'est pas que l'un n'empêche pas l'autre, c'est que l'un et l'autre sont en interaction.
Tout à fait, oui.
L'un produit des effets sur l'autre et réciproquement.
C'est. Pour l'aspect thérapeutique, médicamenteuse, je ne serais pas la mieux placée pour expliquer quelles vont être les interactions et s'il y a eu des études qui ont montré que telle ou telle molécule pouvait avoir un impact, par exemple pour traiter le stress post-traumatique au niveau épigénétique. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que maintenant, on arrive concrètement à mettre des explications biologiques sur des stratégies de thérapeutique cognitive. Donc en fait, on voit que ça fonctionne parce que ça joue effectivement sur la neurobiologie.
Bien, donc comme quoi la peur, on peut lutter contre. Et pas seulement par du récit ou du contre-récit, mais de bien d'autres façons, alors que cette peur... elle a toujours été là, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se dit « ouf, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur ».
C'est ça.
Et c'est un peu envahissant. Donc on est bien sûr un problème de santé publique.
Tout à fait.
J'ai envie de dire de ce que vous me dites, à suivre.
Oui, tout à fait. À suivre et à surtout s'intéresser au processus finalement de régulation de nos émotions. Et je pense qu'effectivement, ce sont les travaux d'actualité pour essayer de réguler ses émotions et faire en sorte que, notamment, réguler la peur puisse devenir bénéfique pour notre société.
Voilà, et donc bah, le à suivre pour, nos, pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, bah, ce sera à suivre le mercredi 18 mars à 19h à la MSH sur le site Saint-Charles, oui, 71 rue du professeur Henri Serre.
Et je voudrais juste rajouter que je ne serai pas seule, il y aura Isabelle
oui,
Chaudieu qui m'accompagnera.
On l'a évoqué en début
voilà,
d'émission.
Et Isabelle elle va nous Chaudieu. Parler de plus d'épidémiologie des stress post-traumatiques et ça sera très intéressant.
D'accord, oui, alors une épidémiologie de la peur,
oui,
oui ça peut s'aborder, c'est pas deux termes qu'on associe forcément.
Non, mais comme il y a de plus en plus de cas, voilà, de personnes en stress post-traumatique, ça mérite de s'y intéresser.
Merci beaucoup, Emmanuel Sarri Campillo, excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Et puis, on vous souhaite une bonne conférence avec plein de gens intéressés.
Merci.